La transition. C'est vrai que c'est un texte plein de l'Évangile, plein de la trace qu'a laissé Jésus. Alléluia. Moi, j'ai mis ma cravate liturgique, hein. Attention. Ah, mais il n'est pas là pour me le faire remarquer, tiens. C'est Jean-Louis. Bien. Nous allons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, et nous lirons les versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, que ton esprit nous conduise dans tes pensées et à travers cette parole, au nom de Jésus. Amen. Entendre, bien entendre ce que Jésus veut nous dire dans ce passage un peu solennel. Dans ce texte, on a l'impression, je dis bien on a l'impression, que Jésus cherche à dissuader les gens de devenir ses disciples, comme s'il les invitait à bien mesurer le sérieux, la gravité d'une telle décision avant de la prendre. J'ai rencontré d'ailleurs pas mal de gens qui, après avoir lu ce texte de Luc, refusaient de se faire baptiser parce que, disait-il, il ne se sentait pas prêt. Comme ça, ça a l'air d'être une sorte de sagesse. Il faut bien être sûr de ce qu'on fait, hein, et pas s'engager à la légère. Il vaudrait mieux renoncer plutôt que de s'engager et échouer. Mais si nous lisons bien ce texte, c'est tout le contraire. C'est au contraire, un encouragement de Jésus à le suivre. Il désire encourager ses auditeurs parce que suivre Jésus, c'est le seul chemin qui mène à un achèvement sûr et certain, à un accomplissement. Tout à l'heure, nous l'avons chanté. Je te suis, Jésus, à travers le voile déchiré. Suivre Jésus, ouvre une perspective éternelle de joie. Ben dites donc. Un chemin de joie. C'est le chemin du don. Jésus a donné sa vie dans la joie. C'est lui qui, à cause de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et méprisé l'ignominie. À cause de la joie qui lui était réservée. Voici la question qu'il faut se poser. Quelle entreprise est la plus foireuse ? Celle de devenir un disciple ou celle de fonder sa vie sur les valeurs naturelles telles que famille, argent, possession terrestre, appartenance religieuse ? Ne finissent-elles pas toutes en des impasses ? La croix ne finit pas en impasse. Aux yeux des ennemis de Jésus, c'est vrai, c'était un échec. Ah, on l'a eu, on l'a vaincu, on s'est débarrassé de cet imposteur. Le voilà pris dans une impasse. Mais c'est tout le contraire. La croix de Jésus ouvre un chemin que nul ne peut plus fermer. Il ouvre une porte que nul ne peut fermer. Et ça réjouit notre cœur, n'est-ce pas ? Oui ? Amen. Une porte que nul ne peut fermer. Pour bien comprendre, il nous faudrait lire tout ce chapitre. Je vais essayer de le résumer. C'est quand même le contexte dans lequel Jésus a prononcé ce que nous venons de lire. Ce chapitre 14 gravite autour d'un repas. Dans les versets 1 à 6, il nous est dit qu'un des chefs des pharisiens a invité Jésus à un repas. C'est déjà en soi assez étonnant. Si l'on s'en tient à l'inimitié connue des pharisiens entre les pharisiens et le prophète de Nazareth. Il y a, comme on dit, du beau monde à table. Un beau monde qui épie le comportement de l'illustre invité. Si on pouvait le coincer par quelques paroles, par quelques gestes. En plus, c'est un jour de Shabbat, un moment hautement sensible. Et puis voilà, il y a un infirme qui est là. Pourquoi il est là ? On se demande si ce n'est pas voulu. Une sorte de piège qui a été amené là pour tester la réaction du maître. Cette présence de l'infirme va conduire Jésus à leur poser une question. Est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat ? Pas de réponse. C'est que les pharisiens savent très bien qu'il est permis d'intervenir le jour du sabbat quand il y a danger de mort. Donc l'inaction, l'interdiction d'agir le jour du sabbat n'est pas absolue. Il y a des situations qui n'attendent pas qu'on intervienne. Et Jésus va intervenir et pourtant... Je ne pense pas que l'hydropisie, on dit ça, non ? Hydropique. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Tu ne sais pas en français. Bon, tant pis. Trop d'eau dans la tête. Voilà, je ne sais pas si ça mettait la vie en jeu. Je ne pense pas. Peu importe, Jésus va intervenir. Il passe à l'action. Il touche l'infirme. Et déjà là, ce geste est quelque chose d'assez déstabilisant pour les pharisiens. Parce que tout malade, tout infirme, est un impur. Et le toucher, c'est se rendre impur. Et comme on mange tous en mettant la main dans le même plat, nous voilà tous contaminés. Il touche l'impur, il le guérit et il le renvoie. Et il repose une autre question. Lequel de vous, si son bœuf ou son âne ou son fils risque de se noyer dans un puits, ne va pas le chercher à le sauver un jour de sabbat? Ce qui m'amène à une première conclusion. Le royaume des cieux bouscule les traditions religieuses, si souvent socle d'identité fermée. Dit autrement, source d'exclusion. Les versets 7 à 11, devant la précipitation de certains hôtes à choisir des places d'honneur, Jésus les appelle à tous à choisir l'humilité, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous avez remarqué que les verbes sont au futur. Sera. Donc l'emploi du futur suggère quelque chose. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Où, quand, comment? Eh bien finalement, il s'agit d'un jugement final, justement. C'est déjà une invitation à suivre Jésus dans son abaissement. C'est déjà se soustraire à la loi naturelle qui pousse les humains à la compétition pour être en tout le premier. Nous sommes saturés de reportages sportifs. Il y en a assez. Ça n'arrête pas. Championnat de France, Tour de France, Jeux Olympiques, Coupe Davis, et j'en passe. Et c'est tout le temps comme ça. Comme s'il n'y avait pas d'autre raison de vivre que de grimper sur la tête des autres pour être le premier. Ce qui m'amène à une deuxième conclusion. Le royaume des cieux s'offre aux petits, aux humbles. Jésus parlait même des enfants, des petits-enfants. C'est quoi un petit enfant? C'est quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui ne peut pas, c'est quelqu'un qui ne possède pas. Il dépend totalement de ses parents, de son milieu. Nous sommes des êtres venus au monde dans une totale dépendance, dans un total dénuement. C'est ainsi qu'il nous faut accueillir le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il nous faut suivre Jésus. Je te suis, Jésus, parce que je ne sais pas où aller. Je te suis, Jésus, parce que je ne possède rien. Je te suis, Jésus, parce que je ne peux rien sans toi. On continue, versets 12 à 14. Jésus invite le pharisien, qui l'avait invité, à sortir du cercle des gens bien comme il faut. À sortir d'une société homogène, dans laquelle chacun se reconnaît dans l'autre. Une société sécurisante, mais fermée comme une forteresse. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni des voisins riches, etc. De peur qu'ils ne te rendent l'appareil. De peur qu'ils ne te rendent l'appareil. Mais invite les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Invite les impurs. Invite ceux qui manquent de tout au point de ne pas pouvoir te rendre l'appareil. Car, et on retrouve le futur du royaume, elle te sera rendue à la résurrection des justes, aux temps achevés, aux temps accomplis. Le royaume des cieux, c'est ma troisième conclusion, s'offre à ceux qui choisissent la solidarité avec les faibles, les pauvres, les méprisés. Et ce texte-là ne retentit-il pas fortement aujourd'hui, au temps des migrants, des sans-papiers, des sans-abri, des, comme dirait Hollande, des sans-dents? On a tendance, c'est vrai, à aimer se retrouver avec ceux qui nous ressemblent. Je lisais un livre il y a un ou deux ans en arrière, de deux journalistes qui décrivaient le fonctionnement de la classe dirigeante, des dirigeants de grandes entreprises, de nos politiques et des financiers, etc. Et ils montraient comment ces gens-là se retrouvent tous depuis l'école, depuis la maternelle, jusqu'à l'université, puis après dans la carrière, c'est toujours les mêmes ensemble, de gauche et de droite. Parce que le spectacle qu'on nous donne à voir, cette espèce d'aquarium où il y a tous les poissons qui chatoient, c'est une illusion. Ils sont souvent tous les mêmes. Parce qu'on aime ça, on aime se rassurer, se sentir dans un autre soi sécurisant. Le royaume de Dieu vient briser cette fausse sécurité. Elle vient nous ouvrir. Vous connaissez la parabole de l'homme riche et de Lazare. Cette parabole est intéressante parce que il nous dépeint un homme qui se traite somptueusement. Il menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Et on imagine la société qui se réunit dans cette maison de l'homme riche. Et puis il y a là, comme exprès, mis à sa porte, un Lazare qui porte bien mal son nom. Pourquoi ? Parce que Lazare, ça veut dire « Dieu est mon aide ». Mais sa vie montre tout le contraire. Il est abandonné, malheureux, il n'a même pas à manger. Il est couvert de plaies, il est repoussant. Et pourtant, il est mis là comme pour inviter l'homme riche à le regarder, à sortir de son cocon rassurant, et pour le voir, et bien sûr pour agir. Mais il ne l'a pas vu. Il n'a rien vu. Et puis la mort les emporte tous les deux. Vous connaissez cette parabole. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe dans notre monde. On revient de Suisse. C'est un pays bien propre et bien en ordre. Tout va bien. Les gens sont bien nourris. Ils sont heureux entre eux, etc. Mais il y a une misère cachée. On met la poussière sous le tapis. Et il y en a de la misère. Même en Suisse. Une misère bien propre, bien en ordre. Il faut que chacun reste à sa place. Il ne faut pas déranger, etc., etc. Le royaume des cieux vient bousculer ça. Il vient casser ces enceintes. J'utilise le terme un peu à dessein. Vous savez, une femme enceinte, c'est quoi ? C'est un milieu sécurisé, chaleureux, on est bien dedans. Enfin, je fus bien dedans pendant 9 mois. Et vous aussi, n'est-ce pas ? Puis tout d'un coup, paf, on est expulsé. Ah, ça fait mal ! Il faut respirer un air beaucoup plus frais. C'est désécurisant, c'est traumatisant. Eh bien, c'est l'excellent traumatisme de l'Évangile, de nous faire sortir de nos sécurités tranquilles, rassurantes, pour nous ouvrir au prochain, à l'autre. Fût-il tombé au milieu des brigands ? Comme dit le chapitre suivant. Versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, il a tout compris, lui. Il a compris que derrière les paroles de Jésus, il y avait l'annonce du royaume de Dieu à venir. À venir, pensait-il, très loin. Or, en Jésus, il est là, le royaume. Heureux ceux qui prendront leur repas dans le royaume des cieux. Jésus lui répond par la parabole de l'invitation à un grand souper. Dans cette histoire, Jésus fait une sorte de bilan de son propre ministère. Parce que Jésus a connu des échecs dans son ministère. Ça n'a pas marché toujours. Il s'est fait jeter. Et il a dû pleurer sur Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Il y a des gens vers lesquels Jésus a été envoyé, comme dit Paul, premièrement. Les Juifs premièrement, puis après, les Grecs. C'est à Israël en premier que Jésus a été envoyé. Mais ça ne marche pas. Ne se mettent en marche pour répondre à l'invitation que celles et ceux qui n'ont rien à perdre. C'est-à-dire, encore une fois, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. C'est la deuxième fois que cette série de personnages apparaît dans cette parabole. Les impurs, les sans-dents, les sans-papiers, les sans-ceci et sans-cela. Tous des impurs, eux répondent à l'invitation parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà tout perdu, de toute façon. Mais voilà, l'un a acheté un champ, il faut aller le voir, comme s'il ne l'avait pas vu déjà avant de l'acheter, mais enfin bref. L'autre a acheté 5 paires de bœufs, il faut les essayer, c'est de la race Massey Ferguson, là, vous savez. Et puis l'autre, il a une femme toute neuve, il vient de se marier. Il ne s'excuse même pas. Il n'y va pas. Et voici donc la colère du maître qui envoie ses serviteurs chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Maître, cela a été fait, il y a encore de la place. Alors il les envoie dans les marges. Il les envoie le long des haies. Curieux ça, le long des haies, c'est-à-dire ceux qui n'habitent pas dans des maisons, ils font du camping ou ils sont, c'est des précaires, comme on dit, les précaires. Le long des haies, dans les carrefours, il ne s'agit pas des supermarchés, bien sûr, mais le carrefour évoque le croisement des migrations, le croisement des routes. Il les envoie là. À Calais, par exemple, il les envoie inviter ces gens au festin, au grand souper qu'il a préparé. Ils vont chercher ceux qui ne trouvent nul endroit où se poser, à l'instar du Fils de l'homme qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Vous vous rappelez ? Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. C'est dire combien Dieu lui-même nous a rejoints et a rejoint les couches les plus basses de l'humanité. Nous avons un Seigneur itinérant et nomade, issu d'un peuple de nomades, d'un patriarche nomade, Abraham. Au fond, être propriétaire terrien, parfois plus un handicap qu'une bonne chose. Moi, je vois, rien que chez nous, on a un petit jardin, tout petit, enfin, quelques légumes, quelques trucs. Puis on est parti presque 2 semaines. Quand on revient, oh là là, quel boulot. Il a fallu demander à notre fille de venir arroser. C'est compliqué d'être propriétaire terrien, oh là là. Je sais que je parle à des gens qui savent ce que c'est. Et au fond, c'est vrai, nous sommes, en appartenant à Jésus-Christ, étrangers et voyageurs. Comme Dieu disait à Israël, vous êtes mes hôtes, vous êtes chez moi. Vous n'êtes pas chez vous. C'est curieux, quand on parle des étrangers, on pense toujours à d'autres. Mais c'est soi-même d'abord. Je suis un étranger et un voyageur sur cette terre. Je suis chez Dieu. Il m'a confié un confetti de terre. Il nous confie les uns aux autres ceci, cela, à nous de savoir nous comporter en gestionnaire et pas en propriétaire. Ce qui devait heurter son auditoire ce jour-là, c'est qu'il réserve l'accueil au repas dans le royaume à tous les exclus en priorité. La maison du royaume sera remplie de ceux qu'on n'attendait pas, mais que Dieu n'a pas oubliés. C'est à cet endroit du récit que Luc ajoute les deux petites paraboles de la construction d'une tour et d'un combat inégal. Pour suivre Jésus, il faut donc avoir la spiritualité du manque. La spiritualité du macaroni et pas celle du cannelloni. Vous connaissez la différence ? Non ? Qu'est-ce que c'est qu'un macaroni ? C'est un trou avec de la pâte autour. Un cannelloni, c'est un truc bourré d'une farce. Et tout ce qu'on essaie de faire pour combler le manque, c'est une farce. Eh oui ? Hein ? Oui ? Jésus invite ses auditeurs à avoir la spiritualité du manque. Autrement dit, pour suivre Jésus, il faut accepter la perte, le renoncement. C'est comme ça que Luc finit par écrire « Ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Les premiers invités au festin, au grand souper, ont tous quelque chose de quoi, à quoi s'arracher. Et ils s'y refusent. Un champ, 5 paires de bœufs, une épouse toute neuve. Il fallait s'arracher à tout ça pour répondre à l'invitation. Abraham est un homme qui s'est arraché. C'est un déraciné. Va, va pour toi. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. C'est un billet simple course vers nulle part. On ne sait pas. Dieu va le mener, mais il ne le sait pas. Mais il lâche tout et il suit. Renoncement, arrachement. Il ne s'agit pas d'avoir de la haine au sens où on l'entend d'habitude envers son père, sa mère, sa femme, ses enfants, même sa propre vie. Il ne s'agit pas de se suicider. Avoir de la haine ici, c'est simplement accepter de ne pas tout fonder sur ces choses et de fonder son existence, sa vie, son espérance sur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de haïr qui que ce soit, mais de renoncer à fonder sa vie sur ces choses, famille, richesse, appartenance, y compris religieuse. Porter la croix et suivre Jésus, ce n'est pas être masochiste, mais c'est renoncer à fonder son existence sur des richesses, qu'elles soient matérielles ou pas. C'est s'arracher aux sécurités religieuses notamment. N'oublions pas que Jésus s'adresse à des pharisiens, dont l'un d'entre eux plus tard sera accepté de renoncer à toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte, afin de gagner Jésus-Christ. Vous le connaissez, cet ancien pharisien, Saul de Tarse. Et même je regarde toutes choses comme des balayures. Des balayures. Ça va où, les balayures ? Dans la poubelle ? dans la poubelle pour aller danser. Ouais. Répondre à l'invitation de Jésus, c'est choisir l'aventure de la foi, sans autre garantie que la fidélité de celui qui nous appelle. Cette vie-là, elle a du sel. Voilà pourquoi Luc ajoute, ayez du sel en vous-même. Le sel est une bonne chose, pas pour vos artères, hein, mais ça donne du relief à la vie. Ça donne du sel à la vie, de savoir ainsi se donner à celui qui s'est donné pour nous et avant nous. Cette vie-là a du sel, comme toute offrande au Seigneur devait être salée dans le temple. C'est aussi le chemin de la joie du don. Nos sociétés matérialistes ne sont-elles pas tristes, travaillées par la peur de perdre? J'étais frappé de voir, on était en Suisse, hein, vous le savez, il y a peu de gens qui sourient dans la rue. Ils sont tristes. On a été au bord du lac, et puis il y avait un fauteuil de plage, il n'y avait aucune mention, rien. Elisabeth s'est allongée dessus. Une demi-heure après, il y a une dame furibarde qui arrive. C'est mon fauteuil. C'est privé. Et partout, vous trouvez des petits panneaux. Privé, propriété privée, chaise privée. Ils sont privés de joie. Tellement ils sont dans la peur de perdre. Mais c'est un peu comme ça en France aussi. Vous ne trouvez pas ? Je trouve que notre époque est triste, souvent. Mais alors là, mes frères et mes sœurs, il est impossible de ne pas remarquer les chrétiens. Comme si ce petit cœur qui disait « toujours content par la pluie ou par le beau temps », quand c'est facile ou difficile, sachons être contents. Grâce à Dieu. Amen. Philippiens 3, versets 4 à 11, nous le lisons. Voilà, Philippiens 3. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair, c'est-à-dire dans l'homme que je suis. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui viendrait de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, pour comprendre cette parabole de Jésus, ces paroles de Jésus, il ne s'agit pas d'hésiter à s'engager derrière lui, mais bien au contraire, joyeusement laisser tomber tout ce qui nous a fait, tout ce qui est en notre pouvoir, en notre possession, pour nous en remettre à celui qui est venu nous chercher et nous sauver. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le Sadhu Sundar Singh? Beaucoup le connaissent. Il a écrit un petit chant que l'on chantait. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, toujours tout droit, sans reculer. Mes amis me laissent, qu'importe, moi j'irai. Toujours tout droit, sans reculer. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Toujours tout droit, sans reculer. Tous derrière, et lui devant. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Merci, car nous savons que tu as ouvert pour nous un chemin de joie, un chemin d'espérance qui pénètre au-delà du voile et qui débouche sur le festin du royaume. Aide-nous, Seigneur, à persévérer derrière toi. Pas seulement marcher au milieu de ceux qui marchent avec toi, mais passer derrière, te suivre sans crainte. Oui, Seigneur, aide-nous à accepter la perte, mais à saisir la vie éternelle à laquelle tu nous appelles. Au nom de Jésus, amen.
Merci pour cette parole que le Seigneur nous adresse. Une parole là aussi à retenir et à vivre. Nous voulons partager le repas du Seigneur. Est-ce que je peux demander à Juliette et puis à Christine peut-être de faire le service ? Merci. Partager le pain et la coupe.